Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Toujours des blocages dans les trains, grève à partir de ce soir, les stations-service dont 20% sont à sec et bientôt les aiguilleurs du ciel. Mais la CGT et le gouvernement se parlent depuis ce week-end et le ton devient clairement plus conciliant, analyse d'Annabelle Grelier dans un instant. Le gouvernement débloque 500 millions d'euros pour les enseignants, c'est une mesure qui était prévue depuis plusieurs mois mais qui tombe bien à un an de la présidentielle. Nous verrons l'ampleur de ce coup de pouce salarial avec Anne Lorchouin. Dans cette édition, l'annonce de la création d'un camp de réfugiés aux normes humanitaires internationales dans Paris par la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Et puis la mort en Méditerranée de 880 personnes la semaine dernière. Ludovic Piétenu a sollicité le chercheur Olivier Clochard. 18h20, du grain à moudre avec vous Hervé Gardette.
Comment parler d'une info qu'on n'a pas? C'est la question posée ce soir à quatre journalistes. Julie Joly, Jonathan Parienté, Fabienne Sintès et Lucas Manger.
A tout à l'heure. Va-t-on vers une sortie de crise? Il est encore bien trop tôt pour le dire. En plein bras de fer, dans l'énergie, le rail, le ciel. Mais la CGT, pour la première fois, n'appelle plus à un retrait pur et simple de la loi travail. Et le Premier ministre, on va l'entendre, adopte un ton plus conciliant. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Tara.
Il n'empêche que ça bloque encore, malgré les efforts du gouvernement.
Après le régime dérogatoire accordé aux routiers sur les heures supplémentaires, les pressions sur la direction de la SNCF, sur les négociations avec les cheminots, la revalorisation des enseignants ou encore la promesse de mise en œuvre de l'accord conclu par les syndicats et employeurs des intermittents du spectacle sur leur régime d'assurance chômage, le gouvernement est à la manœuvre pour éviter tout nouveau front de contestation. Car sur le terrain, grève et blocage continuent. 4 raffineries sont toujours à l'arrêt, la production de 2 autres est à débit réduit, quand 20% des stations-service connaissent toujours des difficultés. Ce soir, la grève reconductible à la SNCF à l'appel des 3 syndicats CGT, Sud et UNSA devrait entraîner pas mal de perturbations. À cela se rajoute la RATP jeudi, les contrôleurs aériens vendredi. On ne peut pas dire aujourd'hui que le conflit est terminé, loin s'en faut. Tout juste pouvons-nous entrevoir un changement de ton entre la CGT et Manuel Valls. Quand on se parle, c'est mieux, a déclaré Philippe Martinez, le patron de la CGT, faisant référence à un appel du Premier ministre samedi dernier. Philippe Martinez, qui pour la première fois hier a fait un pas vers le gouvernement en ne réclamant plus le retrait du texte, mais se disant ouvert à la discussion, notamment sur l'article 2. De là à croire qu'elle est prête à réellement négocier sur le texte, pas sûr. Elle a, dit-elle, des propositions à faire et appelle d'ores et déjà à une prochaine manifestation dans la rue le 14 juin. La CGT, après 3 mois de conflit, n'est pas pour l'heure affaiblie dans le débat. Elle a par ailleurs porté plainte pour diffamation contre le MEDEF.
Merci Annabelle Grelier. Le MEDEF qui répond directement à la CGT ce soir en invitant les entreprises touchées par des blocages liés à la fronde contre la loi travail à porter elle aussi plainte pour délit d'entrave à la liberté du travail. Vous l'avez dit Annabelle, Philippe Martinez se félicite du coup de fil reçu ce week-end de la part du Premier ministre. Un Premier ministre qui a pris parti dans cette joute oratoire entre le MEDEF et la CGT. Manuel Valls s'est rangé du côté de son adversaire du moment, donc du côté du syndicat, et il critique le patronat.
J'ai fermement condamné les propos de Pierre Gattaz, parce que je suis très respectueux du patronat, bien évidemment. Nous avons besoin des entreprises dans ce moment-là, mais tout mot qui tend les rapports entre les organisations dans le débat public, dans le débat social et entre les personnes n'est pas le bienvenu. La CGT est une organisation que nous respectons, dont l'histoire s'inscrit dans l'histoire de France du XXe siècle, dans la lutte sociale, dans celle de la résistance, qui est une grande organisation aujourd'hui. J'appelle chacun à débattre du fond du texte, et en débattant du fond du texte, chacun s'apercevra des avancées pour les entreprises comme pour les salariés. Et c'est cet apaisement qui est nécessaire. C'est pour ça que nous sommes aussi déterminés à poursuivre cette politique qui aujourd'hui donne des résultats.
Manuel Valls, le Premier ministre, qui tente au milieu de son bras de fer avec la CGT de contenter d'autres catégories professionnelles. Ainsi, ce geste assez spectaculaire en direction des enseignants. C'est l'électorat traditionnel de la gauche. Il semblait s'éloigner du gouvernement socialiste ces derniers mois. Matignon annonce donc une revalorisation des salaires qui va peser cette année 500 millions d'euros. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Tara.
Le dispositif va monter en puissance jusqu'en 2020 et il est dans les tuyaux, comme on dit, depuis déjà plusieurs mois.
Oui, il s'agit en fait de la version éducative
l'Association nationale d'un protocole sur les carrières et les rémunérations validé l'année dernière pour toute la fonction publique. Et de fait, depuis 1989 et la création du grade hors classe par Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, les enseignants français n'avaient pas connu de vraie revalorisation salariale, ce qui les avait placés largement en dehors des clous des pays de l'OCDE en termes de rémunération. Ce fossé devrait donc être franchi. Et puis petit à petit, les enseignants devraient voir enfin leur carrière véritablement gérée. Et ça, c'est un vrai changement pour Christian Chevalier, secrétaire général de l'UNSA Enseignants.
Il n'y a pas de politique de RH dans l'éducation. On est incapable de reconnaître des spécificités. On gère des flux, mais on ne gère pas des carrières individuelles. On ne gère pas des profils individuels. On ne peut pas évaluer que ce que l'on voit dans la classe. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais enfin, vous avez des profs qui vont suivre des cours à la fac. Il y en a qui font de l'accompagnement éducatif dans le cadre du sport scolaire. Or, ces activités-là, qui concourent à la réussite des élèves, sont souvent considérées comme secondaires. Nous, on souhaite que ces activités-là, qui ne sont pas annexes, qui sont aussi importantes, puissent être aussi évaluées et surtout reconnues par l'institution.
Et ça devrait l'être, désormais, moyennant des modalités qui sont encore à négocier. Autre changement de logiciel, la création donc d'un troisième grade après le hors-classe, le classe exceptionnel, à destination de celles et ceux qui auront donné plus de 8 ans à l'éducation prioritaire ou à d'autres responsabilités éducatives. Christian Chevalier.
On est sur des logiques qui sont nouvelles, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien sûr l'excellence, mais on reconnaît aussi l'engagement dans des secteurs difficiles, dans des missions qui sont parfois jugées comme rebutantes par les collègues. Je pense à la direction d'école où on voit dans le premier degré qu'il y a chaque année des postes vacants. Et donc ça peut redonner à la fois de la reconnaissance pour ces missions et puis de l'attractivité. Puis en termes de GRH, c'est pas complètement idiot.
Un nouveau grade qui permettra à 30% environ des enseignants de toucher un salaire de près de 4500 euros net en fin de carrière.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Le temps n'est pas agité qu'en France sur le front social. La Belgique est comme l'Hexagone secoué ces derniers temps par une série de grèves. 95% des agents pénitentiaires dans les prisons de Wallonie et de Bruxelles sont en grève depuis plus d'un mois. Les cheminots ont lancé un mouvement le 25 mai dernier. Aujourd'hui, les transports publics, les écoles, les hôpitaux sont très perturbés. À Bruxelles, une manifestation a rassemblé environ 10 000 personnes ce mardi pour protester contre le gouvernement libéral de Charles Michel qui lui aussi veut faire passer sa loi travail. Sur place, Lakshmi Lota.
Des milliers de manifestants, tous habillés de vert, sont partis de la gare du Nord ce matin sous une fine pluie. Sifflets, ballons, quelques pétards qui explosent ici et là, mais peu de slogans criés. La marche se déroule dans le calme et la bonne humeur. Les vendeurs de gaufres sont sur le trajet. Plus que la colère, c'est l'inquiétude qui domine parmi les manifestants.
C'est pour soutenir tout le service public, parce qu'on a pour l'instant une Europe libérale et qui est en train de déconstruire tous les acquis sociaux. On se dirige vers une société comme les États-Unis. On va devenir les États-Unis d'Europe. Et j'ai pas envie de vivre dans une société individualiste.
On est dans la rue pour donner un signal qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et réformer, c'est toujours vers le bas. Et donc, pour donner un signal, nous faisons une manifestation.
Parce que je m'inquiète en fait pour l'avenir du pays, des soins de santé, parce que je travaille comme infirmière et je me rends compte qu'on prend de plus en plus de personnel et les soins de qualité, je me demande ce qu'on en fait.
Enseignants, étudiants, infirmiers, employés de la poste, cheminots espèrent établir un dialogue avec le gouvernement. Le mécontentement porte sur les retraites, les coupes dans les effectifs, mais aussi sur la nouvelle loi travail qui doit être votée à l'automne prochain, la loi Peters, du nom du ministre de l'Emploi. D'après cette réforme, le temps de travail ne sera plus calculé à la semaine, mais sur un an. Un salarié pourra par exemple travailler jusqu'à 45 heures par semaine pendant 6 mois, puis 31 heures le semestre suivant. En attendant des négociations, une nouvelle manifestation nationale est prévue fin juin.
La guerre en Syrie se poursuit, très violente. À Idlib, hier soir, l'aviation russe aurait mené des tirs contre une zone contrôlée par les djihadistes et les rebelles. Des frappes sont tombées près d'un hôpital. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 23 morts au moins. Moscou nie avoir tiré sur cette zone. Et puis en Irak, à Fallujah, l'armée se heurte à une farouche résistance de Daesh. Huitième jour d'offensive. C'est vers le sud que les troupes régulières progressent le plus, mais la bataille pour cette ville s'annonce particulièrement rude. Ces conflits jettent toujours des centaines centaines de milliers de familles sur les routes. Les Nations Unies publient de nouveaux chiffres qui montrent que cette année 2016, le voyage en Méditerranée, encore une fois, a été extrêmement périlleux. L'ONU affirme que plus de 2500 migrants se sont noyés en tentant la traversée depuis janvier dernier. Et rien que la semaine dernière, le bilan est effrayant, au moins 880 morts en quelques jours donc. Et ce chiffre n'est que provisoire selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ludovic Piétenu a joint Olivier Clochard, chercheur au CNRS, au laboratoire Migrintier à Poitiers.
On a aujourd'hui au sein de la mer Méditerranée une multitude de contrôles qui sont en train de se développer en mer Égée et donc ça a nécessairement des conséquences de méthodes de contournement vers des routes beaucoup plus dangereuses. Et donc on voit bien de par les différentes déclarations qu'on met ça sur le dos des passeurs à chaque fois. Il ne faut pas oublier que les politiques mises en place par les États membres et la Commission européenne ont une part de responsabilité dans ces drames qui se déroulent aux frontières de l'Union européenne. Donc à mon sens, là, il y a vraiment une responsabilité à pointer du doigt, mais que les États se refusent bien évidemment d'accepter parce que ça serait de rechercher une alternative aujourd'hui à ce qui est mis en place depuis le début des années 2000. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on regarde des événements comme la disparition de l'avion d'Egypt Air où on a mis en place tout un ensemble de moyens pour tenter d'avoir des éléments d'explication. On voit que là, les moyens mis en place face à de tels drames demeurent très minimes et montrent qu'il y a vraiment une injustice entre ces personnes-là et l'autre personne, je dirais, du continent européen.
Olivier Clochard, chercheur au laboratoire Migrinter. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'annonce faite tout à l'heure par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut créer un campement humanitaire dans la capitale, campement qui doit s'inspirer de celui de Grande-Synthe et obtenir donc l'aide de l'État. Fanny Bouvard est à l'hôtel de ville.
Ce que veut Anne Hidalgo, c'est une structure pouvant accueillir les migrants à la fois le jour pour être pris en charge et soutenu par des associations et la nuit où plusieurs centaines de personnes pourront trouver un lieu d'accueil salubre. Dans les faits, la mairie de Paris s'inspire directement du camp de Grande-Synthe près de Dunkerque. 760 migrants sont actuellement accueillis dans des cabanons de bois installés par Médecins Sans Frontières. Alors dans la capitale, rien ne dit que des cabanons verront le jour. Le type d'hébergement est encore à l'étude, tout comme la localisation exacte de ce camp humanitaire. Plusieurs sites potentiels appartenant à la mairie sont en ce moment inspectés. Des sites pour la plupart dans le nord de la capitale, car il faut rester près des lieux de convergence des migrants, insiste Anne Hidalgo, notamment la Porte de la Chapelle. Ce projet est en tout cas soutenu par les associations parisiennes d'aide aux migrants et plusieurs maires d'arrondissement. Et c'est maintenant à l'État que la mairie de Paris demande clairement une participation financière.
Fanny Bouvard à la mairie de Paris. Direction à présent le palais de justice où sont jugés toujours à Paris deux bourgmestres rwandais pour les tueries commises dans leur commune lors du génocide en 1994. Aujourd'hui, c'est le plus âgé des deux, Tito Barahira, qui doit s'expliquer sur des propos qu'il aurait tenus sur un terrain de football de sa commune. Catherine Dutu.
Il aurait appelé les habitants de Kabarondo à assurer leur propre sécurité ou bien à travailler davantage, ce qui en avril 94 signifiait tuer les Tutsis. Les témoins qui se succèdent à la barre n'ont pas entendu exactement la même chose, mais chacun se souvient de Tito Barahira menant une réunion sur un terrain de football quelques jours après le 6 avril et l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Mensonge et complot, se défend Tito Barahira depuis le box des accusés. L'homme de 64 ans aujourd'hui, pulvère, calme, sort de la torpeur dans laquelle il semble plongé depuis le début du procès, lui qui doit être dialysé 3 fois par semaine. L'ancien bourgmestre nie l'existence même d'une telle réunion. Les témoins mentent, explique-t-il, car ils ont intérêt à le charger, lui, l'ancien notable, pour voir leur peine de prison diminuer ou aménager. Pas de réunion, répète-t-il encore à la présidente, qui évoque des accusations portées contre lui par des témoins jamais condamnés au Rwanda. Quelques heures plus tard, pourtant, ce 13 avril 1994, le pire massacre de la commune de Kabarondo se produit. Des centaines, voire des milliers de Tutsis meurent ce 13 avril sous les obus, les coups de gourdin et de machette dans l'église de cette commune rurale. Tito Barahira affirme, lui, que si on l'a vu une machette à la main à cette période, c'est parce qu'il s'occupait de sa bananerie. Il risque la prison à perpétuité pour génocide et crime contre l'humanité.
Catherine Dutu aux Assises à Paris. Arrêtons-nous maintenant sur cette étude qui bat en brèche quelques idées reçues sur les familles monoparentales. Elles sont 3 millions en France. Bonsoir Aurélie Kiffer.
Bonsoir.
Et d'après l'étude de l'association Uniparents, ces familles, si elles ont bien sûr des difficultés, se montrent aussi très fières d'élever seules leurs enfants.
Oui, une fierté exprimée par 82% des parents interrogés. Le sentiment de honte a disparu. La monoparentalité n'est plus vécue comme une situation hors norme. Ça n'est pas toujours un choix au départ, mais la situation est assumée au point que la moitié des parents interrogés affirment qu'ils ne souhaitent pas reformer une famille classique. Sur ce point, les hommes sont plus nostalgiques. 60% aimeraient bien vivre dans une famille traditionnelle. L'enquête ne précise pas si c'est pour avoir moins de tâches ménagères. Rappelons d'ailleurs que les hommes ne représentent que 13,5% des familles monoparentales. Le premier argument pour défendre la monoparentalité, c'est l'absence de disputes, également appréciée. Le fait de transmettre sa culture plus facilement à son enfant, les inconvénients, c'est la fatigue, le manque de temps, le poids des responsabilités et le sentiment d'isolement. 80% des parents seuls restreignent leurs sorties et restaurants contre 52% de la population générale. En revanche, les sacrifices financiers ne sont pas tellement au-dessus de la moyenne. L'étude a mis en évidence 4 profils de parents. La moitié s'en sort bien. Il y a les accomplis, dont les conditions matérielles sont plutôt favorables et qui trouvent du temps pour eux et pour leurs amis. Et puis les résistants, en difficulté matérielle, mais confiants dans leur projet de vie. Et puis, pour l'autre moitié, c'est plus compliqué. Les inquiets se sentent peu armés face à une situation subie. Enfin, un quart des parents cumulent les difficultés et cela les isole. Ils voient peu leur famille et leurs amis et sacrifient leur vie personnelle au profit de l'éducation des enfants.
Merci beaucoup. Aurélie Kiffer, à l'étranger, en bref, au Nigeria, l'anniversaire de la guerre civile du Biafra, c'était en 1967, tourne mal. Au moins 10 manifestants ont été tués aujourd'hui. Le leader du mouvement indépendantiste Nnamdi Kanu est toujours en prison. Il attend son procès ou une libération conditionnelle depuis plusieurs mois. Son mouvement accuse le gouvernement du Nigeria d'avoir tué au moins 20 manifestants dimanche et 16 hier. Donc dans d'autres manifestations, la guerre du Biafra avait fait 1 million de victimes en 67. Et puis la Corée du Nord aurait raté un tir de missile balistique. Les États-Unis condamne cette tentative. Partons maintenant pour Gaza, où 3 personnes ont été exécutées par balle dans une prison de l'enclave palestinienne. C'était cette nuit et c'est le retour d'une pratique qui n'était plus en vigueur à Gaza depuis 2 ans. Sur place, Étienne Monin.
Saleh Dormouche, le chef de famille de cette puissante tribu, incarne la pression populaire à Gaza qui justifie pour le Hamas le rétablissement des exécutions. Les Dormouches font partie des familles qui ont été touchées par le crime récemment. Certains cas ont ému l'opinion publique. Le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, a annoncé 13 mises à mort parmi les condamnés. La reprise de ces exécutions marque la fin d'un moratoire de fait instauré depuis 2014, depuis les accords de réconciliation entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne de Ramallah, accords qui n'ont pas tenu longtemps. Pour le directeur adjoint du Centre palestinien pour les droits de l'homme, il s'agit d'une procédure extrajudiciaire instaurée d'après Hamdi Shakoura pour détourner l'attention des vrais problèmes. Lutter, se confronter au crime demande beaucoup d'efforts sociaux, économiques, culturels, psychologiques. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Donc au lieu d'aborder le problème de cette façon, la réponse la plus simple, c'est d'exécuter les gens. Le rétablissement des exécutions avait été condamné ces derniers jours par l'ONU et entre autres par Amnesty International. D'après le Centre palestinien pour les droits de l'homme, 69 personnes seraient actuellement dans le couloir de la mort.
Voilà pour ce reportage signé Étienne Monin. On va faire maintenant un point sur les inondations, les pluies torrentielles qui se calment en France, nous dit Météo France. 3 départements sont, cela dit, encore en alerte orange, le Loiret est même en alerte rouge. Les pompiers sont intervenus plus de 4500 fois depuis hier soir. À Orléans, le centre pénitentiaire a été partiellement inondé. Il a fallu transférer plusieurs détenus vers d'autres maisons d'arrêt. À Faye-aux-Loges, petite commune de 3500 habitants dans le centre, on n'a jamais vu un pareil déluge, c'est un reportage de Stéphane Barbereau.
Les bottes ou alors le bateau, c'est le seul moyen de traverser le centre-ville de Faye-aux-Loges. Depuis que le canal d'Orléans a débordé, les sacs de sable aux entrées des maisons n'y font rien.
J'ai 3 cm d'eau partout. Et ça coule parce que j'entends là que ça rentre. J'éponge ce que je peux, j'essaie de sauver les meubles. Mais c'est tout, on va attendre. Mais tant que c'est pas descendu, on peut rien faire.
Juste à côté, Catherine Pelletier regarde, elle aussi, l'eau monter inexorablement.
On calfeutre, on a tout monté. Ça y est, l'eau est rentrée. Voilà. Donc là maintenant, on peut plus faire grand-chose. Ça fait fait 25 ans que je suis ici, j'aurais jamais imaginé que le canal déborderait, étant donné qu'il y a des écluses, donc on se sentait protégé et voilà.
Écluse qui aurait été ouverte trop tard, accuse ce proche d'un riverain dont la maison est inondée. La motopompe ne suffit plus à évacuer l'eau.
Les portes du canal n'ont pas dû être ouvertes en temps et en heure. Il aurait fallu anticiper un petit peu, à mon avis. Je ne sais pas qui c'est qui régule le cours du canal, mais il y a mal d'œuvre de ce côté-là, si vous voulez.
La salle des fêtes de la ville a été ouverte pour accueillir les sinistrés. D'abord une quarantaine de pensionnaires de la maison de retraite évacués en fin de nuit. Une quarantaine d'autres habitants arrivent petit à petit.
On a mis un petit peu un espace jeu là-bas pour les enfants, un peu de coloriage.
Reynald, sa femme, leurs trois enfants, les doudous dans la main, viennent d'arriver.
Les enfants devaient aller à l'école, mais on n'a pas pu les sortir. Moi, j'ai posé des jours, ma femme aussi. Là, il n'y a plus rien à faire, de toute manière qu'attendre. Hein. Et on a tout mis en hauteur, tout ce qu'on pouvait.
Et ce centre d'accueil restera ouvert cette nuit encore pour accueillir au chaud les sinistrés.
Voilà, reportage signé Stéphane Barbereau. Les établissements scolaires sont fermés dans le Loiret. Demain, Météo France annonce que les pluies vont se calmer sur l'ensemble du pays. Mais le Loiret reste en vigilance rouge. La crue du Loing menace toujours. Vigilance orange pour les départements du centre également jusqu'à demain. Le ciel sera donc très couvert. Toujours demain, moins de pluie. Et à 22h, ce sera Stanislas Vazak pour les prochaines informations.